Un jour, je vous expliquerai tout ce qu'il peut sortir de la manipulation de certains signes que vous me voyez faire régulièrement au début des séances comme au cours des séances. Je vous indique donc aujourd'hui juste quelques mots à ce propos pour expliquer que vous-même, vous pouvez très bien, en faisant le signe que je fais, vous-même, vous pouvez très bien capter une ambiance, une salle, voire un événement qui est sur le point de s'accomplir. Quand je dis que vous pouvez voir, pressentir un événement qui est sur le point de s'accomplir, cela ne veut pas dire que vous allez être tout de suite inondé du don de la voyance. Cela n'a rien à voir avec la voyance. Il y a plusieurs façons de pressentir un événement. Soit en ayant une lecture qui soit très mentale, et en ce sens, la voyance peut aider, c'est-à-dire que toute la tête est immergée dans un spectacle ou face à une image, face à une circonstance qui est donnée à l'œil par des symboles et que l'homme doit ensuite traduire. Soit vous pouvez, par quelque chose qui paraît être tactile, mais qui en fait n'est pas tactile du point de vue physique, et tactique du point de vue des organes. Quand je dis tactile qui permet une tactique, je veux dire par là que chaque organe contient une partie inférieure et une partie supérieure. Dans sa partie subtile, un organe va permettre l'approche de quelque chose qui est dans la matrice de l'astral ou dans la matrice du mental ou dans la matrice de l'aura. Dans la matrice de l'astral, on va pouvoir, par exemple, capter un événement qui est à venir. Dans la matrice du mental, on va pouvoir capter, par exemple, une information ou la pensée d'un autre. Et dans la matrice de l'aura, on va pouvoir lire le caractère de quelqu'un, ses défauts, mais aussi, quelque part, son avenir, l'avenir immédiat et quelquefois même ses maladies et son évolution, si on arrive à suffisamment intelligencer la situation des chakras. Donc, je ne veux pas dire que l'organe que représentent les doigts, que cet organe-là est pourvu d'une voyance particulière. Je dis simplement que tous les organes, dans leur vie subtile et supérieure, permettent de rentrer en communication avec une substance. Et cette substance peut être lue. Donc, quand j'utilise les doigts, quand j'utilise la paume de la main, ainsi que tout le poignet, donc en fait toute la main, mais quand j'utilise plus précisément les doigts, il faut savoir qu'il y a lecture et vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez lire l'ambiance. De quelle manière est-ce que cela se passe? Eh bien, tout simplement, comme des petites antennes, les doigts vont ressentir la vibration, vont ressentir des couleurs et des sons que votre oreille physique n'entend pas. Ces sons-là sont les sons de l'aura. C'est-à-dire que votre aura n'est pas simplement composée par ce que l'on appelle des vibrations, des couleurs, mais chaque couleur, chaque vibration émet avant tout un son. Et le son est plus facilement audible, captable en fait, que ne l'est la couleur. C'est-à-dire que si vous pouvez voir la couleur dans une aura, vous pouvez très bien en capter le son. Seulement, il faut savoir que le son de l'aura ne se capte pas par le même organe subtil que la couleur que vous pouvez contempler. Le son, en fait, se capte comme si le corps entier de l'homme était une oreille géante. Et c'est là où comprendre la subtilité de perception des sens devient difficile, parce qu'en fait, il faudrait comprendre que c'est tout votre épiderme éthérique qui capte et qui reçoit, comme un radar, qui capte et qui reçoit la musique de l'aura de l'autre. En ce sens-là, il faut comprendre que c'est votre propre aura dont les terminaisons ont lieu dans le corps physique, par le système nerveux, que c'est donc votre propre aura qui, comme un grand radar, comme une grande oreille, capte les ambiances. En captant ces ambiances, il va y avoir un endroit dans le cerveau où le grand pilote, qui est par exemple votre conscience objective, où ce grand pilote-là va déterminer, en jouant sur l'ordinateur, va déterminer une réaction, une parole, un changement de couleur dans votre propre aura, un changement du rayonnement de l'énergie, qui au lieu d'être rayonnement devient tout de suite introversion du rayonnement. De ce fait, il y a comme cela des coques qui se construisent automatiquement. Ce qui fait que, au bout de plusieurs heures, un homme ayant comme cela passé plusieurs fois d'une coque à l'autre, au bout de plusieurs heures, eh bien, cet individu se trouve rentrant chez lui complètement fermé. Fermé à sa femme, fermé à ses enfants, fermé à son voisin. Pourtant, il aime bien son voisin. Il aime aussi sa femme, il aime aussi ses enfants. Mais quand il rentre du travail, il se trouve complètement comprimé à l'intérieur de ses coques qu'automatiquement, il s'est construit au cours de la journée. En rencontrant pour la xième fois son collaborateur, un collaborateur qu'il n'aime pas, en rencontrant son supérieur, un supérieur qui est un peu agressif ou par trop critique, et donc vis-à-vis de lui, il faut se protéger. Si vous voulez vivre des vies libres, car si vous venez m'écouter quelques instants, c'est bien pour cela. Ce n'est pas pour que je vous raconte l'histoire cosmique. Je vous ai déjà dit mille fois que ce n'est pas de ma bouche que vous entendriez l'histoire cosmique de l'homme ou l'histoire de la planète. Nous allons parler de la vie, celle qui se vit à chaque pas, celle qui peut devenir une prison ou une paire d'ailes pour aller dans le ciel ou pour marcher tout simplement plus librement sur la terre. C'est de cette vie-là que nous allons parler. Donc, si vous voulez vous sentir libre et rentrer libre chaque soir chez vous après votre travail, vous devez savoir que automatiquement votre aura, par friction avec d'autres auras qui ne lui conviennent pas, d'autres rayonnements qui auraient pu l'agresser, votre aura automatiquement construit des coques, c'est-à-dire fait des replis, exactement comme les fleurs tropicales. Les fleurs tropicales s'ouvrent pour prendre le soleil, pour recueillir aussi les insectes et tout ce qu'ils peuvent apporter. Et puis au soir, elles se referment. Dans votre vie, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui pour vous symbolise le soir, la tombée de la nuit, parce que son caractère ne vous convient pas, ou parce qu'il y a trop d'agressivité, ou parce que la personne n'est pas de votre style, eh bien sachez que comme une fleur tropicale, votre aura commence elle aussi à se fermer en un endroit. L'endroit par lequel vous ressentez le plus la personne. Cela ne veut donc pas dire que toute votre aura va être fermée, mais juste l'endroit par lequel vous avez le plus ressenti la personne. Par exemple, quand vous êtes face à une personne qui est mentale et que vous-même vous disposez d'un mental assez efficace, vous allez donc situer tout de suite la relation sur le plan mental avec la personne. Mais si c'est une personne dont le mental ne collabore pas avec le vôtre, c'est-à-dire si vous n'êtes pas en accord avec ses idées ou si vous êtes en accord avec ses idées mais pas dans le style de l'expression, alors automatiquement c'est tout. Ce qui est mental dans votre aura, c'est-à-dire l'aura mentale, qui va petit à petit se replier pour ne plus rayonner puisqu'il n'y a pas de communion possible. Tandis que tout le reste de votre aura va rester dans la même ouverture. Mais imaginez qu'une heure plus tard, vous rencontriez quelqu'un qui vous fait exactement le même effet, mais sur le plan émotionnel. Automatiquement, c'est le niveau émotionnel de votre aura qui va se replier. Et imaginez un peu plus loin que vous rencontriez quelqu'un d'autre qui vous ferme aussi à propos d'autres choses, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, vous rentrez chez vous complètement replié sur vous-même, complètement enfermé. Il y a une manière très simple de réouvrir l'aura au moment où l'on va réintégrer le foyer ou bien au moment où l'on rencontre des amis avec qui le partage est possible. Il faut tout simplement avoir l'impression qu'un grand souffle balaye complètement votre aura et votre corps.
C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une activité, quelle que soit l'activité, qu'elle dure une heure, une minute, une journée, du moment qu'elle va demander de votre part une certaine adaptation, un certain comportement, l'oubli de quelque chose qui est en vous au profit de l'éveil d'autre chose, ce qui veut dire que vous ne serez jamais un entier à ce moment-là. Chaque fois que donc vous êtes passé à travers une expression qui ne demandait qu'une part de vous-même et qui donc mettait en sommeil une autre part de vous-même, il faut que vous pensiez à ce profond respire qui vient et qui redilate votre aura complètement, de façon à faire peau neuve en quelque sorte, comme si vous aviez dormi une nuit et que vous vous leviez le matin disponible et libre face à la vie et aux autres. Il faut faire de temps en temps ce petit nettoyage. Cela se fait très facilement par la visualisation. Il est très important de savoir décristalliser la coque de l'aura. Pourquoi ? Parce que si vous passez plusieurs années de votre vie sans jamais penser à la décristalliser et que vous vivez plusieurs années dans une certaine agression parce que vous avez des épreuves, parce que vous avez des problèmes ou parce que vous avez trop de compassion vis-à-vis du problème des autres, il faut savoir que si vous passez plusieurs années dans cette coque-là, qui arrive que peu à respirer, eh bien, vous allez diminuer votre énergie vitale. C'est-à-dire que ce qui n'était un jour que simple repli devient au bout de quelque temps une véritable couche de calcaire, comme si le prana s'était solidifié, comme un sédiment. Car c'est cela qui se passe. Quand il y a repli, le prana coule, continue à couler. Mais il se confronte à cette pellicule qu'est la fermeture. Et comme il continue de vouloir couler, de vouloir imprégner la cloison, il finit par se déposer, par se cristalliser. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, on peut voir des individus qui s'acheminent vers une mauvaise santé sans que le karma n'y soit pour quelque chose, ou sans qu'il ait commis des accidents en alimentation ou en je ne sais quoi d'autre. Simplement, la cristallisation devient beaucoup trop forte. Et en même temps que la vitalité diminue, la joie de vivre aussi diminue. Tout simplement parce que les énergies de l'ambiance, les énergies de l'environnement n'arrivent plus à pénétrer dans le cœur de l'individu, n'arrivent plus à l'animer, à communiquer avec lui. Ce qui fait que l'on tombe par là même aussi dans la lassitude, que l'on ne trouve plus rien d'intéressant à la vie ou à ce qui nous faisait rire il y a 10 ans. C'est pour cela que l'on peut trouver des vieilles personnes qui en plus d'être légèrement affaissés du point de vue de la vitalité, sont en plus complètement affaissés du point de vue de l'humour, de la qualité de la vie, de la participation à la vie. Et ces vieilles personnes-là disent simplement que la vie n'a plus de sens, que c'est une mauvaise plaisanterie que de vieillir, et qu'après tout, eh bien, les choses ne sont pas si importantes que cela, et elles se moquent des jeunes. Des jeunes qui savent encore rire de la vie. Il faut comprendre que ces vieilles personnes, ayant été agressées toute leur vie par une vie qui est celle de tout le monde, et qui est celle des épreuves, celle du partage, celle de la confrontation avec l'autre qui est différent, avec un système social qui n'est pas parfait, avec des énergies planétaires qui demandent la transmutation, ces individus-là, à force d'être agressés, se sont repliés, se sont engagés donc dans la cristallisation. Ce qui fait qu'ils ont construit un œuf à l'intérieur duquel plus rien ne peut passer, ni la joie de la vie, ni même la tristesse de la mort. Tout devient à peu près égal. Et c'est dans une parfaite indifférence que ce genre de personnes s'en va vers l'au-delà. Donc, pour ne pas être avant l'heure, des vieillards, cristallisés, sclérosés, que ce soit dans le mental, l'affectif ou dans le physique, il faut penser à balayer les énergies. Tous ceux qui pratiquent la méditation ou une certaine forme de relaxation font déjà cet exercice, puisqu'automatiquement des énergies descendent sur l'individu et obligent à une autre forme de respiration, de l'aura, car je ne parle pas de la respiration des poumons, je parle de la respiration de l'aura, c'est-à-dire sa capacité à se dilater, à rentrer en osmose avec les choses de l'extérieur, puis à se recontracter pour revenir à l'intérieur afin de vivre à l'intérieur. Ce qui n'a pas du tout le même sens que de se replier parce que l'on vient d'être agressé ou parce que l'on est en face de quelqu'un qui est différent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous pratiquez la méditation ou une forme profonde de relaxation, cet exercice y est inclus. Simplement, vous devez ajouter le fait que vous devez savoir balayer ces énergies et ces petits sédiments régulièrement dans la journée, quand vous passez d'une activité à une autre, afin d'avoir à disposition toute l'ampleur de vos énergies. Mais si vous ne pratiquez aucune méditation et que vous ne pratiquez pas non plus des relaxations profondes, c'est à cela que je dis, vous devez alors régulièrement dans la journée, quand vous changez d'activité et plus principalement quand vous rentrez chez vous après le travail, vous devez penser à prendre une douche cosmique sur le seuil de votre porte. Avant de rentrer, prenez quelques secondes pour imaginer que un grand souffle comme une douche descend sur vous, vous nettoie l'aura, vous dilate et vous rend donc disponible à votre vie au foyer. De cette façon-là, en même temps, vous respectez le seuil de la maison. C'est très important. Et quand vous rentrez dans la maison, vous êtes alors un individu prêt au partage, qui ne ramène pas dans le foyer tous ses problèmes, toutes ses limites. Le complexe qu'il n'a qu'au bureau. Beaucoup d'hommes, par exemple, sont terriblement complexés, mais ne sont complexés que professionnellement, dans le bureau. Alors que, dans le foyer, ils ne connaissent pas ce complexe, parce que la femme ne le stimule pas et parce que les enfants l'aiment comme il est, l'aiment énormément, et qu'il est assez bien pour leur servir d'exemple. Il ne faut donc pas que ce complexe qui n'est vécu que dans le milieu professionnel soit ramené à la maison, car il serait une véritable contamination pour les enfants. Les enfants n'ont pas besoin d'être élevés avec le complexe du père. C'est l'affaire du père. De la même manière, souvent, les femmes peuvent être complexées lorsqu'elles sont dans la rue, tout simplement parce que leurs jambes ne sont pas bien faites, ou parce que le visage n'est pas aussi réussi que ce qu'elles souhaitaient. Mais dès qu'elles rentrent à la maison, la femme ne connaît pas ce complexe parce que l'enfant l'aime telle qu'elle est. Elle est déjà une déesse pour l'enfant. Et le mari ne stimule pas non plus ce complexe, tout simplement parce qu'elle a l'humour, le trait d'humour de se dire « Eh bien, si mon mari me reproche ma laideur, j'ai autant à lui offrir pour lui, car il n'est pas plus beau que moi. » Soit elle dit « Eh bien, il m'aime comme je suis, et je sais qu'il m'aime profondément. » Donc, il y a des complexes que l'on vit à l'extérieur, et il y a des complexes qui n'apparaîtront jamais à l'intérieur, dans la vie que l'on partage avec les proches. Et il faut faire attention de ne pas ramener ces complexes que l'on vit à l'extérieur, mais pas les ramener dans le foyer. C'est pourquoi il faut respecter le seuil. Le seuil d'une maison, c'est un peu comme une frontière entre deux pays. Le pays de la rue et le pays de la famille. Ce sont deux pays différents, où les hommes d'ailleurs sont très différents eux-mêmes. On voit par exemple cet exemple chez les bandits, dans la mafia. Souvent, les individus qui sont dans la mafia notamment sont capables d'être de très bons pères. Ils ont un sens de la famille, de la responsabilité, du partage qui est très développé. Mais il n'empêche que, sitôt le seuil passé, dans le pays de la rue, ils sont des assassins ou des voleurs ou des escrocs ou des terroristes. Il y a donc la vie que l'on a dehors avec les autres et la vie que l'on a dedans avec les proches. Et généralement, ce sont deux vies complètement différentes. Ce qui prouve que dans l'individu, il y a aussi la possibilité de deux personnalités. Celle qui se défend et celle qui partage sans aucun problème, sans jamais être sur la défensive, qui partage avec les autres. Si vous voulez bien vous connaître, si vous voulez bien travailler sur vous-même et à votre propre évolution, essayez de faire un bilan sur la vie que vous entretenez à l'extérieur et la vie que vous entretenez à l'intérieur, dans votre foyer ou bien avec vos amis, si vos amis représentent votre famille. Regardez les différences. Regardez les points sur lesquels vous êtes, par exemple, très dur à l'extérieur et relâché à l'intérieur. Par exemple, analysez l'autorité. Regardez de quelle façon vous êtes autoritaire à l'extérieur et que devient votre autorité à l'intérieur. Et ainsi, vous verrez de quelle manière vous manipulez ce que l'on appelle le pouvoir. Et s'il y a une très grande différence entre l'autorité que l'on exerce à l'extérieur et celle que l'on exerce à l'intérieur, cela veut dire que le pouvoir n'est pas réel, n'est pas compris. Cela veut dire que on accepte d'être un certain individu à l'extérieur et que l'on sait qu'à l'extérieur on doit être autoritaire. Cela veut dire donc que l'on a reconnu les codes de la société et de la vie en commun. Cela ne veut pas dire que l'on sait articuler la puissance ou le pouvoir. Cela veut dire simplement que l'on a atteint un certain développement mental, psychologique, un certain développement de l'aura pour être capable de comprendre les codes de la société. On va décoder ces signaux et on va s'apercevoir qu'il y a divers groupes humains et que selon les groupes humains, il va falloir là être très sévère et même sortir une grosse voix. Avec cet autre groupe humain, il va falloir au contraire ne rien dire, mais agir par une hiérarchie. Avec un autre groupe humain, il va s'agir d'une autre tactique, etc., jusqu'à ce que l'on ait répertorié tous les moyens d'influence et tous les moyens de faire asseoir en fait son autorité. Ceci dans le but de faire fonctionner une entreprise, ou dans le but de s'ériger soi-même en tant que personnalité dominante. Donc, lorsque l'on a repéré les codes, il est très simple de savoir articuler le pouvoir dont on est capable et que l'on pressent. Il est simple de savoir l'articuler pour qu'il devienne efficace avec tel groupe ou tel autre groupe. Ça, c'est ce que permet l'intelligence. Maintenant, pour savoir exactement quelle est la nature du pouvoir ou de quelle manière avez-vous compris le pouvoir, de quelle manière vous le rayonnez, il ne faut pas simplement que vous vous arrêtiez à observer ce comportement-là qui est purement social. Il faut que vous regardiez aussi de quelle manière vous exercez cette autorité au sein du foyer, ou du groupe d'amis, ou dans une fraternité. Et si il y a, par exemple, une trop grande différence, c'est-à-dire si au travail je suis autoritaire et qu'à la maison je ne suis pas du tout autoritaire, cela veut dire que le principe qu'est le pouvoir n'est pas encore compris. Je ne possède pas le pouvoir. Simplement, je peux dire que je suis suffisamment intelligent et observateur pour avoir pu tirer des conclusions du paysage humain que je voyais, des réactions humaines que j'observais et savoir par là même déduire quel serait mon comportement. Une fois que vous pouvez faire comme cela avec tous les concepts, le concept de l'amour, de la patience, de la générosité, etc. Une fois que vous pouvez faire avec tous les concepts le même bilan et voir les différences qu'il y a dans l'expression extérieure ou dans l'expression intérieure, vous saurez par là même sur quel point exact vous devez travailler. Pour obtenir quoi, vous allez me dire? Pour obtenir tout simplement la qualité que l'on trouve dans le milieu et qui ne se trouve ni à gauche ni à droite, mais qui se trouve tout simplement dans le milieu. Comme je citais tout à l'heure, l'autorité. En fait, l'autorité est un enfant bâtard du pouvoir. Et tant que c'est un enfant bâtard, l'individu n'arrivera pas à développer le véritable pouvoir. Il ne pourra même pas soupçonner ce qu'est le pouvoir. Donc, il faut qu'il essaye de méditer sur soit les manquements de son autorité, soit les excès de son autorité, pour découvrir en fait la voie du juste milieu, car c'est dans le juste milieu que se trouve la vertu. Comment s'y prendre donc dans la vie? Car je cite cela comme un exemple, comme un principe, mais techniquement, comment s'y prendre tous les jours face à n'importe quelle réaction? Eh bien, pour savoir comment vous y prendre, vous devez tout simplement changer les personnes qui sont dans votre paysage. Par exemple, si à votre travail, telle personne suscite constamment un excès de votre autorité, soit parce que la personne est lymphatique, soit parce que vous jugez qu'il faut la tenir de très près, soit parce que vous jugez que, sitôt que vous avez le dos tourné, il n'y a pas moyen de se faire respecter, ou soit parce qu'elle vous semble au contraire plus forte que vous, mais qu'ayant un poste inférieur à vous, c'est une façon de soulager votre aura de ce complexe. Donc, quand vous avez face à une personne un excès d'autorité pour une quelconque raison, essayez de superposer sur le visage de cette personne le visage d'un être que vous aimez absolument. Et seulement après, réagissez vis-à-vis de la personne. Et vous verrez à quel point, considérant ce qui est à faire ou ce qui est à dire, car par exemple dans le cadre d'une activité professionnelle, ce qui est à dire, on ne va pas fermer le dossier en pensant que, puisque j'ai disposé par-dessus le visage de mon enfant et que j'aime mon enfant, eh bien je lui pardonne. Non, ce qui est à dire, est à dire. Simplement en superposant le visage d'un être aimé par-dessus le sien, vous serez plus à même d'agir depuis votre centre de neutralité et votre point d'amour. Donc automatiquement, ce qui sortira de vous à ce moment-là sera tout empreint de la grande justice, du grand amour, de la grande patience. Ce qui ne veut pas dire que cela doit vous amener vers des faiblesses. Absolument pas, car ce qui est à dire, est à dire, et ce qui est à faire, est à faire. Comme lorsque vous voulez tirer quelque chose au clair à l'intérieur de votre couple ou vis-à-vis de vos enfants ou de vos amis les plus chers. Ce qui est à dire, est à dire. Donc, si vous avez à reprocher quelque chose de grave à un employé ou à un collaborateur, eh bien, vous en viendrez à exprimer la même idée, mais le style et l'énergie qui sortira de vous pour cette expression, ces deux choses seront complètement différentes. Et ce sera grâce à cette différence que vous allez pouvoir alchimiser le comportement de l'autre. Car l'autre va ressentir ce rayonnement, va ressentir cette capacité d'amour, mais en même temps, cet absolu de la justice qui réclame que cela change, que cela devienne autre chose. Et automatiquement, évoluant dans ce climat d'amour et de confiance, l'individu que vous vouliez transformer va se transformer. Alors que si j'arrive avec mon autorité, qui plus est mon autorité de supérieur par exemple, et que j'ordonne le changement, ou que je pointe la chose qui ne va pas, à ce moment-là, je commets vibratoirement et mentalement un raz-de-marée d'agression. Et celui qui reçoit ces paroles se sent véritablement agressé. Donc, il crée son système grâce à sa coque, il crée son système d'autodéfense, on ferme toutes les portes très vite, en une seconde, on bouche les oreilles, on n'écoute plus rien. Et l'on ne prend pas soin de repérer les indications qui permettraient de transformer ce qui doit être transformé. Par exemple, les conseils donnés pour mieux faire un travail. Et c'est ainsi qu'un patron n'arrive jamais à se faire entendre de ses employés. Se faire entendre. Voilà une petite phrase qui semble très simple, mais qui veut tout dire. Se faire entendre. Je n'arrive pas à me faire entendre de telle personne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire justement que tout ce qui aurait permis à la personne de capter le message pour comprendre le besoin ou l'impératif du besoin qu'exprimait le supérieur, tout ce qui pouvait capter a été refermé. Et donc, il n'y a pas d'osmose, pas de transmission. S'il n'y a pas de transmission possible, il y aura encore moins communication de par le verbe et la langue. Car vous devez savoir que la vibration précède le mot. Vous pouvez très bien préparer quelqu'un à parfaitement comprendre ou accepter ce que vous avez à dire sans lui dire un seul mot. Et vous préparez votre aura, et vous préparez l'aura de l'autre, de façon à ce que, lorsque vous vous rencontrez, et que vous lui dites « Attention, ceci, c'est comme cela », de façon à ce que toute l'énergie se précipite dans l'aura de l'autre, et préfabrique en quelque sorte l'état d'esprit propre à s'apercevoir, à comprendre ce que vous dites. Pour comprendre ce que je dis, il faut que je vous explique comment fonctionne la conscience. La conscience ne fonctionne pas simplement comme un réseau de télécommunication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une tête chargée de son inconscient, subconscient et tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas simplement une tête qui entend quelque chose, qui le met dans l'ordinateur, qui décide d'une phrase ou d'un comportement, donc d'une réaction, et qui ensuite vous sert cette réaction. La conscience, c'est un paysage. Et ce paysage est construit par des milliers et des milliers de petites tentacules, comme une petite pieuvre. Et ces tentacules vont à la rencontre d'autres paysages, d'autres tentacules. Ce qui fait que, avant même que vous ayez dit un mot, votre paysage intérieur a contemplé le paysage intérieur de l'autre. C'est-à-dire que les deux auras se sont frôlées et se sont dit leurs quatre vérités. « Ah non, hein, ta couleur rose, ça ne me plaît pas, moi je ne suis pas un mystique, regarde la jolie couleur bleu marine que moi j'ai dans mon aura. Moi je suis un ésotériste. » C'est ainsi que se parlent les auras. Et c'est comme cela qu'elles s'envoient des coups de coude, des coups de pied, et qu'on voit des couleurs se faire comme cela la guerre. Et si dans l'aura, par exemple, il y a deux couleurs qui vont assez bien ensemble, c'est-à-dire que même si chez l'un il y a trop de rose, alors que chez l'autre il y a du bleu, mais que malgré tout il y a du vert dans l'aura des deux individus qui se font face. Alors sur ce plan-là, ils vont s'entendre grâce à cette couleur verte. Sans comprendre pourquoi, dès qu'ils se mettent à parler de Dieu, ils sont prêts à s'arracher les cheveux. Alors que finalement, ils sont tout à fait d'accord lorsqu'il parle des énergies, de la guérison, du magnétisme, etc. Il faut savoir que ce sont vos couleurs qui, au moment où vous exprimez, et même avant que vous exprimiez l'idée, il faut savoir que ce sont vos couleurs qui sont déjà en communication et qui déjà prédestinent la communication à bien se passer ou à mal se passer. Alors vous pouvez me dire, mais alors contre cela on ne peut rien faire. Si j'ai du vert quelque part et que l'autre a du jaune, on ne pourra jamais faire quelque chose de beau. On n'arrivera jamais à s'entendre. Bien sûr, vous pouvez en rester là et être conditionné par vos couleurs et par le son de vos couleurs. Vous pouvez très bien en rester là, et c'est ce que font la plupart des gens, si bien qu'ils forment des groupes, et si bien que lorsqu'un clairvoyant regarde l'aura d'un groupe, eh bien, il voit exactement la même aura que celle qui existe autour du corps de chaque individu qui compose ce groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère. Si par exemple vous êtes une personne à dominante de violet et que vous vivez conditionné par ce violet, vous allez attirer à vous les personnes de la même couleur, ce qui fait que l'être collectif que vous allez composer aura aussi la même couleur. Il n'y a pas de secret. Et c'est pour cela, encore une fois, qu'après s'être fait la guerre sur le plan individuel, les hommes se font la guerre sur le plan collectif. Et l'on voit ainsi des écoles ésotériques ou des écoles de pensée, puis plus loin des nations, s'affronter comme cela. Parce que l'être collectif rencontre un autre être collectif. Et ce qui se passe au niveau individuel lorsque vous rencontrez votre voisin, et que vous rejetez son aura, et que cela se fait automatiquement, eh bien cet automatisme a lieu aussi entre les êtres collectifs, c'est-à-dire l'être collectif d'un temple, d'une école, d'une forme pensée, ou d'une nation. Et c'est comme cela que l'on voit, avant que la guerre éclate, par exemple, entre deux nations, on voit bien avant l'être collectif des deux nations, on les voit se battre. Si bien que la guerre individuelle qui s'ensuit n'est qu'une conclusion tout à fait normale, une conséquence inévitable. Vous pouvez me dire que on n'y pourra rien, que puisqu'il y a une telle diversité des énergies et des couleurs, eh bien il faut tout simplement se mettre avec celui qui permet la meilleure osmose. Eh bien, je dis non. Et je dis non, non pas parce que je prétends que tous les hommes sont frères et que je veux régulièrement reciter les paroles du Christ et que je veux vous faire entrer ces paroles-là, quoi qu'il advienne et quoi qu'il m'en coûte. Je ne suis pas si bête que cela. Je dis non tout simplement parce que vous avez la possibilité, malgré vos différences, d'expérimenter une très belle alliance, une alliance de tous les instants, avec le balayeur de la rue ou le grand scientifique, avec simplement un prêtre qui en fait ne fait que débuter dans la foi, ou avec un grand occultiste qui a le regard complètement plongé dans l'univers. Vous pouvez établir la même alliance. Comment cela se peut? Cela se peut non pas parce que vous allez vous souvenir que tous les grands illuminés vous ont dit que vous êtes frères les uns les autres. Cela n'aura pas lieu non plus parce que vous allez vous efforcer en allant chercher au plus profond de vous-même à aimer l'autre. Cela ne viendra pas non plus parce que vous allez vous efforcer de vous croire pas plus évolué que celui qui est en face de vous. Et donc là, vous jouez sur le coefficient d'humilité dont vous êtes capable. L'alliance n'aura pas lieu grâce à ces ingrédients-là. Car un jour, si par exemple vous êtes un peu de mauvaise humeur, eh bien l'humilité, vous n'en voudrez pas. Si un jour vous êtes dans un certain malheur, eh bien l'amour universel, vous n'y penserez pas, vous n'en serez pas capable, etc. Par contre, il y a quelque chose qui vous permettra d'être bien avec tout le monde. Le temps d'un contact, le temps d'une discussion qui est nécessaire, d'une visite qui est nécessaire, d'un voisinage qui est nécessaire. C'est en rendant votre aura complètement blanche, en superposant par-dessus vos propres couleurs, un vêtement de neutralité. De cette façon-là, grâce à ce manteau de neutralité, vous allez pouvoir être patient vis-à-vis de celui qui vous hérissait il n'y a pas une heure. Alors que vous savez très bien qu'au fond de vous-même, il y a une grande patience, parce que vous avez pu vous prouver à vous-même que vous aviez été patient dans telle et telle circonstance, vis-à-vis de telle et telle personne. Vous savez donc fort bien que la patience est en vous comme une lame de fond. Mais voilà un écueil. Et la lame de fond se fracasse contre l'écueil. Voilà qu'il existe une personne que vous ne pouvez absolument pas supporter. Et cela, tout d'un coup, ruine complètement votre édifice spirituel. Comment cela se peut ? Comment est-ce que j'en suis capable ? Comment suis-je arrivée à pouvoir être impatient, à être irrité, alors que j'essaye de cultiver la tempérance, alors que dans 10 minutes, si c'est telle autre personne qui vient me parler, alors que je n'ai pas un spécial amour pour elle, je sais que je serai patient. Cela veut dire donc qu'il y a des couleurs qui communiquent vraiment très mal et qui font que l'aura finit par se mentir à elle-même, c'est-à-dire par se trahir elle-même, par être impatiente alors que dans d'autres cas, elle est patiente. C'est vrai qu'il y a des couleurs qui se marient très mal, des tonalités qui se marient très mal. C'est à ce moment-là où il faut vous couvrir de blanc. Et c'est très facile. Il vous suffit d'un instant, dès que vous sentez que l'écueil approche, dès que vous sentez que la lame de fond va s'abattre et détruire votre bâtiment spirituel, alors couvrez-vous de blanc. D'un seul coup, faites pleuvoir comme vous deviez faire tomber la douche au seuil de votre maison. D'un seul coup, faites pleuvoir une belle ondulation blanche, crémeuse, pleine de vie. Et vous verrez que vous aurez à disposition toutes vos qualités. Cela ne veut pas dire que cela va vous créer les qualités que vous n'avez pas. Car si par exemple vous n'avez vraiment pas la patience ne va pas être créée pour cela. Je parle de créer cette neutralité pour que vous puissiez conserver les qualités que vous avez déjà, afin qu'elles ne se trouvent pas contredites vis-à-vis de certaines autres personnes qui stimulent en vous le contraire de ce que vous êtes. Je vous donne cela donc pour protéger votre acquis et non pas comme une méthode de création de ce que vous ne possédez pas. Ça ne marchera pas. Si vous ne possédez pas la patience, eh bien il faudra tenter de l'acquérir. Il y a plusieurs manières pour acquérir les qualités spirituelles. Soit vous vous efforcez chaque fois de faire systématiquement le contraire de votre défaut. Par exemple, si vous n'avez pas de patience, eh bien vous vous efforcez chaque fois d'obtenir cette patience. Donc mentalement, vous essayez de vous raisonner et vous verrez qu'en utilisant cette méthode, vous allez dépenser énormément d'énergie mentale. Et tout le temps, vous serez obligé de vous rappeler, bon, sois patient, patient 2 minutes. Tu sais, dans un quart d'heure, c'est terminé, tu peux bien attendre un quart d'heure. Et vous apercevrez qu'en fait, vous serez toujours en train d'utiliser l'énergie mentale pour détourner votre esprit du point qui stimule votre impatience. Ce qui fait que si vous faites ça toute la journée et des jours durant, eh bien, vous allez rentrer chez vous avec une irritabilité énorme. Parce que tout aura été bloqué dans le mental et le mental lui-même se trouvant surchargé va devoir se décharger quelque part. Et il se décharge en tant qu'électricité tout le long du système nerveux. Une partie de la décharge va revenir au mental, ce qui fait que par là même, vous allez vous rendre plus susceptible ou ne pas supporter un bruit à la maison, etc. Mais ceci peut être quand même effectué de temps en temps pour obtenir une certaine force de persuasion sur soi-même. Il faut pouvoir être capable de se persuader soi-même. Il faut pouvoir se sentir capable de se mener soi-même, comme l'on mène un cheval. Donc, de temps en temps, il est très bon d'utiliser cette énergie mentale. Mais il ne faut pas compter uniquement sur cette énergie-là, car vous aboutissez à l'irritabilité, donc à l'effet contraire de ce que vous souhaitez. Vous pouvez employer en complément donc une deuxième méthode, qui est tout simplement le lâcher prise. Je lâche. Interrogez-vous. Si telle personne que je vois régulièrement et qui me dit régulièrement la même chose, et que régulièrement cette chose m'énerve, si bien que je voudrais la hacher menu, si cette personne arrive à m'énerver, c'est parce que je la vois, c'est parce que je l'entends, c'est parce que je parle.